sur la technique et compétent sur ces questions, voilà, n'hésitez pas à venir vérifier plus tard dans la journée ce pourquoi nous n'avons point de musique aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, mes invités, eux, sont bien là et nous allons aujourd'hui parler d'une nouvelle formation, peut-être que vous ne connaissez pas. Il s'agit du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Voilà, donc pour en parler avec moi, j'ai un professeur, monsieur Heinz, bonjour.
Bonjour.
J'ai également deux étudiants qui sont dans cette filière, donc qui sont étudiants en première année du CPES. C'est Camille Ponchamp, bonjour.
Bonjour.
Et Carmin Cochamp.
Bonjour.
Alors peut-être tout d'abord, faisons tomber le mystère. En quoi ça consiste ce CPES ?
Alors c'est en fait une licence sur trois années qui a été mise en place en partenariat avec le lycée Descartes et l'université de Tours. Donc on a des enseignements qui sont répartis à la fois au lycée et à l'université et qui progressivement vont, les étudiants vont progressivement passer de l'encadrement du lycée vers celui de l'université. Donc en première année, ils vont être 80% du temps au lycée et 20% du temps à l'université. En deuxième année, on est sur 50% du temps dans les deux établissements. Et en troisième année, les étudiants vont être surtout à l'université avec 80% du temps et seulement 20% du temps au lycée.
Donc cette formation, elle est toute nouvelle. Je crois que c'est la première année au lycée Descartes, en tout cas.
Oui, tout à fait. Elle a été créée là, pour la rentrée de septembre dernier. Et donc cette année, on a la première promotion donc en L1. Le but étant, en fait, au bout des trois années de licence, d'obtenir la licence sciences de la transition écologique et sociétale.
Voilà, donc c'est une formation qui est bien diplômante, hein, vous venez de le rappeler. Il en existe aussi ailleurs en France, je crois qu'on en trouve dans 15 villes en France, des formations comme celle-là.
Oui, alors il y avait au départ trois CPES qui existaient en France, cette année, à la rentrée dernière, donc il a été créé à peu près une CPES par académie. Généralement, on a choisi un lycée avec des classes préparatoires qui travaillent avec une université locale.
Voilà, donc le lycée Descartes accueille bien des classes préparatoires, mais comment ça s'est passé, en fait, l'accueil de ce CPES ? Est-ce qu'on a dû faire de la place dans les bâtiments ? Est-ce qu'il a fallu réorganiser l'emploi du temps des professeurs ? Parce que, si j'ai bien compris, il y a des enseignants des classes prépa, mais aussi de l'université. Comment ça se passe ?
Alors, en fait, pour tout ce qui est à l'université, on a choisi de placer les cours uniquement sur le mercredi, pour que les étudiants n'aient qu'à aller sur un site à la fois. Et sinon, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, ils sont au lycée. Et donc, ce sont les enseignants soit de classe préparatoire, soit du second degré qui interviennent dans cette formation.
Et donc, ces étudiants, ils ont, on a deux ici, ils ont plutôt quel profil ? Comment on accède à ce CPES ?
Alors, ce qu'on demande, si on regarde sur Parcoursup, ce qu'on demande, c'est que les futurs étudiants aient suivi au moins deux spécialités scientifiques en première et qu'ils aient gardé une spécialité scientifique en terminale. Alors après, les parcours sont vraiment variés et on a un système d'accompagnement justement pour aider les étudiants en première année notamment et en deuxième année pour avoir de l'aide supplémentaire en fonction des spécialités qu'ils n'auraient pas suivies au lycée.
Justement, on va se tourner vers nos étudiants. Est-ce que vous voulez l'une et l'autre nous dire justement quelles avaient été vos matières au lycée et comment vous avez choisi celles que vous avez cette année ?
J'ai commencé à prendre les spécialités en première mathématiques, physique et numérique et sciences de l'informatique, NSI, pour en terminale ne garder que physique et numérique et sciences de l'informatique et option maths complémentaires. Je me suis retrouvée un petit peu bloquée sur Parcoursup puisque je ne pouvais pas être admise dans les classes préparatoires puisque je n'avais pas fait l'option maths, la spécialité maths ni même maths experte. Et de même pour la spécialité SVT, que je n'avais pas fait non plus. Et le CPES prenait en compte le fait qu'on n'ait pas fait toutes les spécialités, puisqu'il est impossible de toutes les faire. Et avec physique et informatique, je pouvais rentrer en CPES.
Donc là, est-ce que c'est finalement faute d'avoir été en prépa ? Comment ça s'est passé, ce choix du CPES ?
Ça a été un hasard, puisque ça a été un zoom sur la carte de Parcoursup. Je suis Tourangelle et j'ai zoomé sur Tours. J'ai vu une CPES au lycée Descartes. J'ai regardé le programme, j'ai aussi regardé dans les autres CPES qui étaient déjà présentes en France. Mais j'ai vu que celle-ci était différente par le parcours sciences expérimentales et sciences sociales. Et je me suis dit, pourquoi pas, on verra. Et comme je n'avais aucun choix d'orientation future, je savais que j'aimais l'environnement et tout ce qui s'y rapproche, j'ai décidé de mettre la CPES dans mes vœux et à ma grande surprise, j'ai été acceptée.
Moi, j'ai pris en première les spécialités plutôt scientifiques, sciences de la vie et de la Terre, physique, chimie et mathématiques. J'ai abandonné les mathématiques, j'ai gardé les deux autres et j'ai pris maths complémentaires. À la fin de ma terminale, j'ai mis plusieurs licences de biologie. J'ai mis de la philosophie aussi, parce que pourquoi pas. Et quand j'ai eu mes acceptations, j'étais pas décidé en fait. Ça me donnait pas forcément plus envie que ça. Donc j'ai essayé de chercher autre chose et ma sœur a fait ses études sur Tours. Donc j'ai zoomé aussi sur la carte parce que la CPES est apparue très tardivement sur Parcoursup l'année dernière. Donc on ne l'avait pas vu encore avant. Et je suis tombé dessus par hasard, mais j'ai trouvé que ça convenait parfaitement, en tout cas à ce que je voulais faire et à ce que j'attendais de mes études. Et je trouvais ça directement utile, en fait. Enfin, je voyais le sens directement dès la L1.
Voilà, donc est-ce que vous voulez réagir à ce que disent ces deux étudiants ?
Alors oui, en fait, l'année dernière, en fait, on a eu... la mise en place de cette formation a été très tardive, parce qu'il y avait des tas de contraintes administratives, et donc on a commencé vraiment à pouvoir en parler qu'à partir du mois de janvier-février. Et on s'est rendu compte que sur Parcoursup, au moment de l'ouverture de Parcoursup, elle n'apparaissait pas du tout. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça apparaisse, mais effectivement, ça a été peut-être difficile de trouver la formation la première année, puisqu'elle n'apparaissait même pas dans Parcoursup. Voilà. Et donc on a essayé de communiquer, mais comme c'est une formation déjà qui est nouvelle, elle a été créée tardivement dans l'année. Et donc c'est vrai que la première année, les étudiants qui ont été au courant de l'existence de cette formation ont été un petit peu assez rares, contrairement à cette année où effectivement on a l'occasion de pouvoir plus en parler. Et on a aussi l'avantage d'avoir la première promotion qui est là pour témoigner de ce qu'ils vivent et de l'intérêt aussi qu'ils ont par rapport aux enseignements.
Alors, je crois que c'est une classe de 40 étudiants, c'est bien ça ?
Alors, normalement, donc, l'effectif doit être de 40 est prévu à 40 cette année. Donc, ils étaient 17 en début d'année. Et donc là, ils sont actuellement 16. Il y a une jeune fille donc, qui venait vraiment de très loin, qui d'outre-mer et qui a choisi en fait, de faire un service civique cette année pour réfléchir un petit peu plus à sa formation.
Voilà, donc des étudiants qui viennent de toute la France, mais aussi, donc, une étudiante qui dit « j'ai été surprise d'être retenue pour ce CPES », mais voilà, on peut préciser que c'est tout de même des étudiants qui ont un bon niveau et une bonne capacité
tout
de travail.
Tout à fait. Les étudiants ont généralement une mention au bac. C'est une formation sélective. Et donc, il faut vraiment qu'ils aient une appétence pour cette thématique de l'environnement et de la transition écologique.
Et alors, si d'aventure, il y a des étudiants qui n'ont pas pris d'option au lycée autour des maths ou des sciences dures, entre guillemets, qui ont plutôt porté leur choix sur la philosophie ou les lettres, est-ce qu'ils perdent toute chance de rentrer dans un type de formation comme celle-là ?
D'autres spécialités sont aussi intéressantes, comme histoire géopolitique ou comme sciences économiques et sociales. Mais c'est vrai que pour pouvoir suivre en première année, il est quand même nécessaire d'avoir un minimum de bagage scientifique, puisque notamment au lycée, on a encore beaucoup de matières qui sont assez traditionnelles, avec des mathématiques, de la physique, de la chimie, des SVT. Et de l'informatique. Et donc, pour ces matières-là, si on n'a vraiment pas suivi du tout d'enseignement scientifique au lycée, ça paraît un peu compliqué d'envisager la formation.
Et je vois sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, je n'invente rien, je cite même mes sources, il est dit que ces filières sont aussi en faveur des candidats boursiers. Voilà, donc, il y a une volonté d'ouvrir ces formations le plus possible aux candidats boursiers. Alors, qu'en est-il à Descartes ?
Oui, effectivement, on a des étudiants qui sont boursiers. Et donc, le but, c'est de favoriser l'accès à ces formations aux étudiants et qui oseraient peut-être moins aller dans ces formations sélectives pour des raisons familiales et donc de les encourager à y participer.
Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment différent par rapport au prépa, cette idée d'élargir le plus possible les horizons des étudiants ?
On est effectivement dans le même. Non, c'est pas différent. On est sur la même longueur d'onde. Hein. C'est-à-dire que effectivement, on va avoir un classement des candidatures et on va avoir un certain pourcentage d'étudiants s'ils sont boursiers qui seront favorisés pour accéder à la formation.
Et donc, quand on est boursier dans cette formation-là, est-ce que, enfin, ça semble très terre à terre comme question, mais par exemple, est-ce qu'on a droit, s'il y en a un, à l'internat des classes prépa ?
Pour l'instant, il n'y a pas de place pour les élèves, pour les étudiants cette année à l'internat. Il est envisagé qu'il y ait effectivement quelques places uniquement pour qui seraient réservées aux étudiants boursiers.
Voilà. Eh bien. Je pose une dernière question et nous allons faire une pause musicale, espérons que cette fois-ci ça fonctionne. Est-ce que vous pensez que ce format de cycle pluridisciplinaire d'études supérieures peut, en tout cas, a vocation à transformer ce que sont les classes prépa ? Est-ce que l'idée, c'est que les classes prépa évoluent vers ce format-là ? Ou pas forcément ?
Non, je ne pense pas. On n'est pas du tout en concurrence. Les classes préparatoires préparent à un concours pour entrer dans les grandes écoles. Nous, on est plutôt sur une formation intermédiaire entre l'université et les classes préparatoires. On accompagne les étudiants vers des études universitaires.
Au demeurant, on peut aussi préparer certains concours en suivant votre formation.
Alors, ce n'est pas des concours, c'est des admissions comme tous les étudiants de licence, hein, en admission parallèle en école d'ingénieur.
Eh bien, je vous propose une première pause musicale et après quoi on donnera la parole aux étudiants pour qu'ils nous racontent comment ça se passe ces études. A tout de suite sur Radio Campus Tours. Cette fois ça marche. voilà, nous sommes à nouveau sur Radio Campus Tours. On vient d'écouter une pause musicale en langue allemande. Voilà, je vous mettrai dans le podcast de quoi il s'agit pour éviter de prononcer mal le nom de ces artistes. Alors, toujours avec moi en studio, mes invités pour parler du CPES ou de la CPES. J'ai cru comprendre qu'on pouvait dire les deux. Voilà, c'est comme le ou la Covid peut-être. Alors, avec moi en studio, rappelons-le, donc Monsieur Heinz, vous êtes professeur de SVT au lycée Descartes, Camille Ponchamp et Carmin Cochin, vous êtes étudiant en première année de CPES, et on ne l'entend pas, mais elle est là aussi, Sylvie Mercadal, documentaliste. Alors peut-être voulez-vous nous en dire plus sur le programme de ce ou de cette CPES, Monsieur Heinz, qui a choisi le programme ?
Alors en fait, ce programme est construit par les enseignants. Nous avons travaillé donc avec les universitaires pour bien voir quels étaient les prérequis nécessaires pour pouvoir suivre à l'université dans les thématiques qui sont enseignées. Et donc nous au lycée, sur des matières classiques qui sont donc, il y a des mathématiques, de la géographie, de la physique, de la chimie, des SVT, français, philosophie, anglais, on va donc avoir un certain nombre de prérequis à atteindre pour que les étudiants puissent ensuite travailler sur les thématiques plus larges de l'environnement à l'université. Donc on a complètement construit les programmes, et c'est ça qui est bien, parce qu'on peut justement aborder des thématiques de façon transversale, tout en construisant en augmentant la solidité des bases qui sont nécessaires pour la poursuite d'études.
Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur cette maquette de cours ? Il y a quoi comme heures de cours, par exemple ? Il y a combien d'heures de cours pour quelle matière ?
Alors, en première année, donc, vous avez 2 heures de SVT, 4 heures de mathématiques, 4 heures de physique-chimie, 2 heures d'informatique, 2 heures de français-philosophie, 2 heures de géographie et 2 heures d'anglais. Voilà, ça c'est au lycée. À l'université, donc c'est des modules, donc c'est variable en fonction des semaines. On a donc sur le premier semestre, c'était des modules liés aux sciences expérimentales, et là sur le deuxième semestre, ils sont à l'université, donc au De Lyon, en sciences humaines. En fait, donc c'est sur 2 sites différents en première année à l'université, soit sur le site de Grandmont, soit sur le site des De Lyon.
Voilà, je laisse la parole à nos étudiants. Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur les contenus de ces cours ?
Ils sont très modulables, c'est-à-dire qu'on les construit en même temps que les professeurs. Ils ont déjà leurs cours qui sont préparés, mais on peut leur expliquer si on a moins compris un cours, ou il faudrait rajouter par exemple 2 heures pour qu'on comprenne mieux. Ou alors pour les prochains, faire passer un chapitre avant l'autre, afin que la compréhension du dernier chapitre soit mieux. On a une réelle discussion avec les professeurs, et par exemple si on n'a pas suivi la spécialité ou même qu'on a un problème dans un des cours, on peut demander de l'aide aux professeurs qui vont moduler. On a des heures d'accompagnement personnel, mais aussi en plus on peut avoir des heures avec des professeurs pour retravailler un cours ou pour l'approfondir.
Si je peux rajouter quelque chose, ou je suis entièrement d'accord avec elle, c'est j'aimerais rajouter du coup que ce qui est particulier aussi, c'est qu'on a vraiment une vaste étendue de sujets. Donc on a vraiment un truc très général, mais en même temps on se spécialise dans 2 choses, donc le sociétal et les sciences expérimentales, qui met sur le même point de vue qui sont les enjeux climatiques. Donc ce qui est vraiment très intéressant et une grande ouverture d'esprit, je trouve.
Voilà, donc je pense que c'est assez rare tout de même d'associer des étudiants dans la construction d'une maquette, de prendre en compte en le faisant leur retour.
Oui, tout à fait. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. On n'a pas un programme qui est imposé comme on aurait en lycée ou en classe préparatoire. Ici, on est vraiment dans une construction du programme, donc entre enseignants, mais aussi on tient compte des remarques des étudiants.
D'ailleurs, vous avez organisé il y a peu de temps un événement au lycée Descartes où il y avait des conférenciers. Est-ce que vous voulez nous expliquer de quoi il était question ?
Alors, on a organisé des tables rondes avec plusieurs corps de métiers différents, devenant Il y avait des personnes enfin, de toute la France et même une personne d'Irlande. Donc c'était très enrichissant, il y avait plein de points de vue différents. Et on a discuté sur plusieurs thématiques liées à l'environnement et débattu quels sont leurs points de vue et qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour aller vers justement cette transition écologique. Donc le matin, on a eu quatre tables avec différentes thématiques et différentes personnes. Et ensuite, l'après-midi, on a fait un grand débat général avec tout le monde, reliant toutes les tables rondes de la matinée.
Donc c'est-à-dire que pour mettre en œuvre, comment dire, pour organiser cette journée, ça demande aussi beaucoup de travail en amont, donc de choisir les thématiques, de repérer les invités, de construire la journée. Et donc tout ça, c'est des choses que vous avez fait dans le cadre de comment ça s'est passé?
Alors on l'a pas, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est notre professeur de géographie avec d'autres professeurs qui ont organisé cette journée des transitions. Nous, on a été seulement acteurs, mais je pense que pour les prochaines années, les élèves sont plus mis à contribution. Comme c'était une première journée de transition, on a été la phase test et ça s'est très bien passé. On a envie que les prochaines années puissent bénéficier aussi de cette journée très riche pour nous, très enrichissante.
Par exemple, on a déjà proposé, plusieurs élèves ont déjà proposé des personnes, soit de leur entourage ou de leur famille, qui puissent, leur métier puisse être intéressant dans cette journée des transitions pour les CPES de l'année prochaine. Donc on peut participer à trouver des personnes, à donner des idées pour l'améliorer.
Donc c'est-à-dire que vous êtes déjà en train de baliser le, disons, le chemin des futures premières années.
Oui, c'est un peu ça. On les aiguille, on a bien aimé ces choses-là, alors on aimerait qu'eux aussi les aiment à leur tour.
Mais est-ce qu'il y aura peut-être un système, je ne sais pas comment on dit, de parrainage ou quelque chose comme ça entre les années? En tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait?
Alors oui, on y a déjà pensé au parrainage justement pour bien guider les nouveaux et puis même créer des liens en fait, parce que malgré, même s'ils sont 40, nous 16, enfin c'est pas un très grand nombre, donc il peut y avoir des liens très, très intéressants et puis de l'entraide dans cette licence.
Et qu'est-ce que vous imaginez, déjà qu'est-ce que vous allez choisir l'année prochaine? Et est-ce que vous commencez à entrevoir ce que vous ferez au bout de ces 3 ans?
Pour la plupart de la classe, on choisira sciences expérimentales, mais c'est d'une certaine logique puisqu'on vient de milieux scientifiques, nous avons fait des spécialités scientifiques. Mais certains prendront les sciences sociales, ce qui est très bien aussi. Et moi, personnellement, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Et c'est pour ça que la CPS est un bon choix, puisque ça nous réouvre encore sur d'autres matières, des matières très variées, entre l'expérimental, le social. Et ça nous permet encore d'avoir quelques années pour se projeter et justement rencontrer des professionnels, puisqu'on en rencontre beaucoup, et pouvoir choisir la bonne voie. Donc ce sera un master, je pense, moi, lié à l'environnement, mais lequel? Je ne sais pas encore.
Moi, je pense me diriger vers un tout autre objectif qui est le théâtre. Mais cette licence aussi m'intéresse beaucoup, enrichissement pour moi-même. Enfin, c'est un enrichissement pour moi-même. Et même pour moi, en fait, l'art sert aussi à passer des messages, à faire comprendre des choses sur ce qui se passe de nos jours, socialement, politiquement, économiquement. Et pour moi, c'est très important d'avoir un message engagé vers ces enjeux-là qui sont essentiels de nos jours.
Alors, la première année, elle est vraiment commune à tous les étudiants. Et en fin de première année, on leur demande de choisir entre une dominante science expérimentale ou une dominante science humaine, en sachant qu'il y a toujours un tronc commun avec des enseignements des deux spécialités. Et après, il y a davantage de l'une ou l'autre des possibilités. Alors, en fait, après la licence, on peut déboucher sur différents masters. Donc, soit des masters, donc plus pour ceux qui auraient choisi le parcours sciences humaines, d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement et de paysage. Et puis, pour ceux qui auront plus choisi la partie sciences expérimentales, donc on débouche sur des masters liés à la gestion de l'environnement, aux sciences de l'eau, à la biodiversité, à l'écologie, à l'évolution, à l'alimentation et l'environnement, à la biologie et aux agrosciences. Donc c'est vraiment très diversifié.
Et je crois qu'il y a aussi des stages dans ce parcours. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Oui, donc il y a deux stages de proposés, un stage en fin de L2 et un deuxième stage en fin de L3. Donc en fin de L2, c'est un stage qui dure plusieurs semaines dans une structure associative en lien avec l'environnement. Et en L3, on est sur un stage beaucoup plus long de 2 mois, où là, les étudiants vont vraiment choisir un stage adapté par rapport à leur projet de poursuite d'études. On est sur la démarche de la poursuite d'études, puisque bien sûr, on ne s'arrête pas après la licence, on va continuer vers un master. C'est comme dans toutes les licences.
Et est-ce qu'on peut encore candidater via Parcoursup alors ?
Alors, effectivement, on peut encore candidater. Le site, il est ouvert jusqu'à demain soir, minuit. Donc, il faut se dépêcher parce que les dernières heures, généralement, sont assez compliquées hein, parce qu'il y a trop de connexions. Mais bien sûr, on peut candidater encore.
D'ailleurs, je me tourne vers nos deux étudiants. Est-ce que vous en parlez, vous, de cette formation autour de vous pour décider peut-être des personnes que vous connaissez à tenter cette formation-là ?
Alors, oui, j'en ai parlé un peu autour. Et puis mes parents aussi en ont parlé autour d'eux. Donc, ce qui a fait que je connais quelques personnes qui sont intéressées et puis avec qui je peux échanger justement... Pour les informer de comment ça se passe et quelles sont les attendues et aussi quelles sont leurs attendues à eux.
Quant à moi, j'en ai parlé au lycée à des amis. J'en ai aussi parlé lors des journées portes ouvertes du lycée Descartes. On a reçu beaucoup de monde et nous avons donc créé un compte Instagram du CPES. Je fais un petit peu de pub. CPES-du-bas-tour. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on vous répondra. Voilà, donc vous pouvez aussi donc venir nous suivre et nous poser des questions, on est à l'écoute et on viendra vous répondre, même si Parcoursup, ça se termine demain.
Bien, et nous allons faire une nouvelle pause musicale dans cette méridienne consacrée au CPES du lycée Descartes. À tout de suite. Thank you. nouveau cet incroyable groupe allemand, donc tant pis, j'ose le dire en français, Eustro 430. Vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tours, avec moi en studio, Monsieur Heinz, professeur de SVT, Camille Ponchamp et Carmin Cochant, étudiant en première année CPES, et toujours ici, Sylvie Mercadal, documentaliste. J'allume son micro quand même, au cas où, on ne sait jamais. Alors, je crois que ce profil à l'horizon des rencontres littéraires aussi. Donc, il y a eu ce cycle de conférences dont vous nous avez parlé, cette table ronde, mais il y a aussi des rendez-vous littéraires. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Nous avons rencontré un auteur, pianiste, écrivain, Patrick Scheder, qui est venu. Donc, nous lui avons préparé des questions auxquelles il a répondu. Il a aussi joué du piano, improvisé improvisé. Donc c'était un piano-voix, puisqu'il y avait le piano et la lecture d'élèves du lycée, de textes de Georges Sand. Il va aussi avoir le 2 mai prochain la rencontre avec Simon Hureau, donc un auteur tourangeau de bande dessinée. Donc il a notamment écrit L'Oasis. Donc ça, c'est une initiative personnelle, c'est moi qui l'ai rencontré, et je me suis dit, ce serait bien qu'il vienne nous voir et qu'il nous raconte pourquoi faire des BD et pourquoi faire des BD liés à l'environnement. Le choix des couleurs, le choix des matériaux, l'histoire. Voilà, donc prochainement, on pourra le rencontrer et discuter avec lui de ces thématiques-là.
Et alors, c'est ouvert à tout public ou c'est réservé aux étudiants du lycée Descartes ?
Alors pour l'instant, c'est réservé, mais on aimerait bien, pourquoi pas, faire des journées où on pourrait ouvrir au public avec des conférences ou des cycles ou des conférences ou dédicaces avec ces auteurs-là. Et pour l'instant, on est en phase d'essai toujours. Et puis si ça nous plaît ou si le feeling passe bien avec l'auteur, on pourra lui proposer ce type d'événement.
Je me tourne vers Carmin, ça fait peut-être écho à ce que vous expliquiez tout à l'heure, votre souhait peut-être de vous orienter ensuite vers le théâtre, cette idée de art et science.
Bien sûr, bien sûr. C'est très enrichissant personnellement. J'apprécie beaucoup justement discuter avec ces gens-là qui ont un côté artistique et qui transmettent leurs idéaux par ça. Mais en plus, mis à côté de ça, aussi on a eu une étude cinématographique, par exemple, dans les sciences sociales à l'université, qui est très, très intéressante, sur des anciens films, dont là notamment qu'on avait vu Soleil Vert. Et aussi, on se présente continuellement entre nous des œuvres, des livres, des pièces, et tout ce qui s'en rapporte. On en voit aussi beaucoup en littérature, en géographie. Et je trouve que ça donne un bagage énorme culturel.
Donc là, comment dire, qu'est-ce qui vous semble peut-être le plus différent et le plus inattendu entre le lycée et puis là, cette formation cette année ?
Moi, je dirais la liberté. On est libre de faire ce qu'on veut. Alors, on est présent en classe, on vient en classe, on écoute, on participe. Mais à côté, on peut proposer des projets, les monter avec les professeurs ou les documentalistes, et ensuite les mettre en place. Et je trouve ça génial, puisqu'on peut tous proposer nos projets qui nous tiennent à cœur. Voilà, c'est très libre. En français, par exemple, la professeure de français va nous faire travailler sur... donc on travaille par groupe sur un thème, et le but est de faire une revue de presse, donc de choisir une trentaine d'articles, d'en faire une synthèse qui va être présentée sous forme de revue. Et... une fois qu'elle sera bien sûr corrigée et relue, elle pourrait être soumise à la documentaliste qui pourrait, par exemple, la mettre sur le site du CDI pour que les prochains étudiants, si jamais ils recherchent des sujets en lien avec notre thème, puissent trouver le travail que nous avons fait de synthèse et puissent s'en servir à nouveau. Donc c'est une sorte aussi de partage. On partage ce qu'on fait et oui, il y a une liberté et partage.
Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les attendus dans les rendus, dans les études de documents, qui ne sont pas du tout les mêmes que dans le secondaire, où on va vraiment exposer notre esprit critique et dire ce qu'on en pense franchement. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça, ça permet de réfléchir beaucoup plus à ce qu'on lit, à savoir ce qui nous intéresse. Et on a d'autres, d'autres projets comme en géographie où on devra faire un exposé sur quelque chose personnel. Enfin, on choisit le sujet qui est en rapport avec la géographie, mais ça aide à se spécialiser, en fait, je trouve, dans ce que l'on veut faire plus tard.
En fait, de ce que je comprends, en fait, de ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a un rapport au savoir qui est autre. C'est-à-dire que peut-être, est-ce que vous trouvez que vous avez plus de place en tant qu'étudiant, en tant que personne, dans les enseignements ?
Oui, complètement. Et par exemple, en géographie, quand on faisait des exposés, on disait, mais arrêtez de faire des exposés classiques, montrez-nous ce dont vous en avez pensé. Mais alors, bien le dire et correctement. Mais il y a notre côté, il y a vraiment notre côté humain, ce qu'on pense, qui ressort. Et c'est presque obligatoire de le faire ressortir. Et c'est ce qui nous définit, c'est ce qui fait la différence du travail de chacun aussi. Donc oui, le travail en géographie, ce que disait Carmen, sur le petit papier qu'il nous a donné, il y a marqué « production libre en 10 minutes ». On n'a pas de consigne. Et ça a dérouté certains d'entre nous qui étaient là, monsieur, il n'y a pas de consigne. Non, il n'y en a pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Alors, il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu. J'insiste, Sylvie Mercadal. Donc, vous êtes professeur documentaliste. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la suite de ce que disent les étudiants?
Là, je voudrais parler du sourire de Camille, qui, en disant il n'y a pas de consigne, avait un petit sourire gourmand. Là, je sens que ça lui avait plu. Ce que je voudrais dire, c'est qu'ils sont 16 étudiants pour 1800 élèves et que je les connais quasiment tous. Donc, et je ne connais pas les 1800 élèves du lycée, pas personnellement en tous les cas. Donc, ça prouve bien qu'ils se sont bien installés dans le lycée et qu'ils ont pris leurs aises et qu'ils utilisent toutes les potentialités, notamment au CDI. Alors nous, on a dû faire face à l'achat de livres spécifiques d'une section qui est en cours. C'est-à-dire, oui, comme disait mon collègue, on n'a pas le programme qui nous est donné d'en haut. Et donc, on est en train de construire un fonds spécifique au programme très, très large, justement, parce que ça n'est ni scientifique, ni totalement scientifique, ni totalement sociologique. Il y a un petit peu de tout et c'est très intéressant.
Et alors, en tant qu'enseignant, est-ce que vous dites, tiens, on crée un laboratoire d'enseignement? Est-ce qu'il y a une idée de créer un modèle?
Effectivement, les cours qui vont être donnés au CPES vont aussi pouvoir être partagés avec les autres étudiants de l'université qui sont dans des formations thématiques pas forcément liées directement à la transition écologique. Mais le but, ça va être de regrouper en fait tout ce qui se fait au niveau de la transition écologique par les cours du CPES et de pouvoir partager ces cours avec les autres étudiants de l'université.
Mais même au niveau pédagogique, parce que c'est peut-être pas un mode d'enseignement que vous avez rencontré ailleurs, cette façon avec des étudiants qui proposent, qui donnent leur avis, qui ont envie de changer des choses, qui suggèrent, qui osent parfois, c'est pas forcément un rapport qui est le plus courant avec des enseignants.
Non, et c'est très motivant.
Ouais, et d'ailleurs, cette expérience-là, comment est-ce qu'elle fait tache d'huile dans l'établissement? Comment ça se passe?
Elle est très bien accueillie. Hein, on arrive tout à fait à partager notre expérience. Et je pense que le fait qu'il y ait cette nouvelle formation permet aussi d'échanger avec les collègues pour réfléchir à la façon d'enseigner, la façon de construire les cours. Et ça permet donc de progresser.
Bien, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale dans cette méridienne et on se retrouve tout de suite après. Thank you. Auditeurs, auditrices, vous avez reconnu l'inimitable Manu Dibango, voilà, vous en avez été privé au lancement de cette émission, donc il me semblait juste de le mettre en pause musicale. Alors revenons-en au CPES. Alors nos étudiants nous disaient voilà, que c'est un parcours innovant ou exigeant aussi, on apprend énormément de choses, on travaille aussi quand même, mais on s'amuse, il y a aussi toute une partie loisirs, activités et liens sociaux. Alors je crois que vous aviez envie d'en dire quelque chose.
Oui, en effet, le point positif de la CPES, c'est qu'elle touche aux deux mondes, c'est celui de l'université et celui des classes préparatoires. Donc, les activités proposées dans ces deux mondes, elles sont accessibles au CPES. Donc, ce qui fait une richesse d'activités culturelles, de rencontres énormes. Personnellement, je suis au théâtre universitaire de Tours, qui est au Tanner. Et c'est juste génial. Et en même temps, je fais des activités sportives avec les prépas. Donc, ce qui est super intéressant.
Voilà, donc c'est-à-dire que vous pouvez accéder au PCE, donc le passeport culturel étudiant, rappelons-le, qui permet d'avoir des réductions, en fait, des tarifs préférentiels sur toute une série de salles de spectacle, mais aussi de stages de photos. Enfin, il y a énormément de choses, donc aussi potentiellement le PACSport. Voilà, donc c'est l'idée d'avoir accès à toute cette vie étudiante. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, comme on pourrait peut-être l'imaginer, enfermé dans le lycée Descartes. Vous pouvez vraiment aller découvrir la ville et plein de choses.
Oui, en effet. Et puis, c'est sûr que cette année, on est plus dans le lycée Descartes, mais comme on l'a dit précédemment, on va être beaucoup plus à l'université après. Donc, en fait, on va dire que c'est plus facile de parler aux élèves de la prépa pour l'instant, mais petit à petit, avec l'ouverture et les activités... Ça fait énormément de relations, je trouve, sociales, accessibles.
Et tout à l'heure, il était question aussi d'emprunter potentiellement du matériel pour faire un reportage. Alors, c'était quoi votre idée, Camille ?
Ce serait l'idée de reportage mobile où, par exemple, comme on a aussi accès au Fac Lab, donc des endroits où il y a du matériel informatique, on peut tourner des vidéos, il y a des micros aussi, donc pour des émissions de radio. Donc on a la possibilité d'emprunter ce matériel pour aller faire des sondages ou pour même enregistrer ou filmer une rencontre qu'on pourra avoir avec un intervenant. Donc on est libre de ce qu'on, ou on est vraiment libre de ce qu'on veut faire. Et on a aussi les moyens qui sont mis à disposition pour pouvoir le faire. Donc, et même, on peut aussi tourner les clips vidéo ou les enregistrements dans les Fac Labs, puisqu'ils sont aménagés pour pouvoir tourner des petits films.
Et donc, toutes ces ressources, peut-être qu'on peut rappeler à nos auditeurs où est-ce qu'on peut les retrouver, si vous produisez des contenus comme cela.
Alors, on peut les retrouver sur le site donc, du lycée Descartes. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, mais
patience.
Sur le site du lycée Descartes, dans la rubrique CPES, ou alors sur le compte Instagram de la CPES, CPES-Tours.
Eh bien, merci à vous. Alors, on rappelle qu'il y a encore quelques heures pour candidater via Parcoursup pour cette formation. Je me tourne vers vos professeurs. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter donc en conclusion pour décider peut-être des auditeurs à se rapprocher du CPES?
Je voudrais peut-être conclure en insistant sur les atouts de cette formation. Déjà, donc, on a une exigence par rapport au contenu des enseignements. Cette pluridisciplinarité qui est vraiment intéressante. Et la transversalité entre les sciences expérimentales et sciences humaines, c'est quelque chose qui est unique en France. Hein. On ne propose pas ce type de formation ailleurs que dans notre CPES. Donc on est sur une organisation avec une transition progressive du lycée à l'université. Et on pourra aussi souligner l'initiation vers la recherche, avec notamment des travaux avec des enseignants-chercheurs.
Voilà, merci. Toutes les infos sont à retrouver sur le site du lycée Descartes, évidemment. Et en conclusion, peut-être, est-ce que vous avez une idée, une recommandation de lecture en lien avec l'écologie à faire à nos auditeurs, que ce soit une bande dessinée, un blog, peut-être un film? Est-ce que vous avez des ressources que vous aimeriez recommander à nos auditeurs, les unes et les autres?
J'avais plusieurs recommandations. Alors, les livres de Sylvain Tesson sont tous merveilleux. Et recommandation de bande dessinée, donc L'Oasis de Simon Huro, qui est un magnifique livre, très coloré, très poétique, vraiment très beau, et qui montre que refaire revenir la biodiversité est possible. Et aussi un livre, enfin une BD qui est très en vogue en ce moment, Un monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. Donc il fait le numéro 1 dans les ventes, mais il nous explique très bien tout ce qui tourne autour de la question énergétique en France et partout dans le monde.
Je pourrais aussi conseiller une pièce de théâtre qui s'appelle Nos cœurs en terre de Sagazan et David Wall, qui parle de la frontière entre le minéral et la vie, que j'ai particulièrement apprécié. Voilà.
Je me tourne vers les documentalistes, peut-être qu'il y a sûrement des recommandations à faire en fait de ressources, de livres ou de ressources culturelles en lien avec les thématiques.
Ah oui, c'est énorme. Il y a une grande activité éditoriale actuellement. Bah, je pense qu'ils ont donné des bonnes références. Alors, je vais être plus sérieuse, je vais donner le manuel des transitions. Donc, c'est un gros livre qui aborde toutes les transitions actuelles. Voilà, et puis il y a des romans aussi. Moi, j'aime beaucoup le roman La Zone. Je ne me souviens plus de l'auteur, mais c'est l'histoire des stalkers, ceux qui vont dans la zone de Tchernobyl et qui sont à la fois qui prennent des risques, mais qui à la fois constatent que la nature reprend ses droits assez rapidement, et ils sont assez émerveillés. Voilà.
Merci à nos invités d'être venus nous présenter cette nouvelle formation entre la CPGE et la licence. Hein, voilà, on vous laissera réécouter cette émission à 17h. Elle sera également en podcast sur notre site radiocampustour.com. Et pour se quitter, je vous propose d'écouter une chronique étudiante. Cette fois-ci, c'est une chronique de notre émission Le Club des 5, chronique internationale. Donc, 5 étudiants de l'université de Tours qui effectuent un parcours LEA anglais-espagnol et qui sont actuellement à l'étranger, chacun dans un pays différent. Ça aussi, c'est en podcast sur notre site. Et je vous laisse écouter Fanny Varré. Je vous souhaite à tous et à toutes la meilleure journée possible à l'écoute de nos programmes, évidemment.
Hola, c'est Fanny Varré et bienvenue dans un nouvel épisode du Club des 5. Je suis actuellement à Valparaíso au Chili pour effectuer la dernière année de ma licence en langues étrangères appliquées. Vous pouvez retrouver le premier épisode de mon expérience sur le site de la Radio Campus de Tours. Dans ce nouvel épisode, je vais aborder le thème de l'apprentissage d'une langue. Personnellement, je suis des cours d'espagnol depuis que je suis au collège, mais pour être honnête, c'est clairement pas grâce à ça que mon niveau s'est amélioré. Je ne trouve pas que le contenu des cours soit très intéressant au collège et au lycée en général, mais malheureusement les profs sont soumis au programme scolaire. Heureusement, je suis tombée sur des profs au top, car ils ont énormément contribué au fait que j'adore cette langue, notamment avec leurs idées créatives et leur passion. J'ai observé une amélioration dans mon niveau en espagnol quand je suis rentrée à l'université. Pour rappel, je fais une licence de langue, donc j'ai notamment appris à traduire des textes du français vers l'espagnol et inversement. Et j'ai pour la première fois eu des cours exclusivement en espagnol, et ça aide beaucoup pour la compréhension et l'apprentissage de nouveaux mots. En parallèle, je me suis mise à lire de plus en plus en espagnol et à regarder des séries et des films en VO espagnol et avec des sous-titres espagnols. Et ça a été tellement bénéfique. Je suis devenue de plus en plus à l'aise pour comprendre cette langue. Au passage, je conseille vivement la série Las Chicas del Cable. Mais c'est bien beau d'avoir un vocabulaire plus ample et de mieux comprendre les hispanophones quand ils s'expriment, mais qu'en est-il de l'oral ? Comment faire pour être à l'aise en parlant une autre langue ? C'est une très bonne question, et il s'avère que moi, j'ai un accent français très présent quand je parle anglais ou espagnol, mais j'ai toujours été plus à l'aise en espagnol, car je trouve la langue plus fluide et plus simple. Il y a quelques techniques pour prendre confiance en soi, comme celle de lire en espagnol à voix haute, ou ne pas hésiter à prendre la parole en cours. Il ne faut surtout pas avoir peur de se tromper, c'est en s'entraînant que l'on peut s'améliorer. Mais une chose est sûre, il n'y a pas un meilleur moyen d'apprendre et de parler une langue que d'aller directement dans un pays où c'est la langue couramment utilisée. C'est pourquoi mon échange universitaire au Chili est une énorme opportunité pour améliorer mon niveau. Dès le début, je me suis dit que c'était mon principal objectif en venant ici et que j'allais faire en sorte de ne pas rester avec des Français. Et après déjà 5 mois, je peux être fière de moi car je suis sur la bonne voie. En plus de suivre des cours à la fac seulement en espagnol, je ne côtoie pas ou très peu les Français présents à Valparaíso et je suis en coloc avec 4 Espagnols. Alors au début ce n'était pas simple car je trouvais qu'ils avaient un débit de paroles dingue, mais au fur et à mesure je me suis adaptée. J'ai appris encore plus de vocabulaire, j'ai lu des livres, j'ai vu d'autres films en espagnol et je suis très heureuse car à ce jour je constate une grande évolution dans ma compréhension orale et écrite et dans ma manière de m'exprimer. Je suis de plus en plus à l'aise et je peux désormais prendre la parole plus aisément qu'avant. Bien évidemment, il y a encore du travail et je ne suis pas complètement bilingue, mais je suis fière et ravie de pouvoir vivre et étudier dans un pays en Amérique du Sud, d'avoir des amis chiliens et espagnols et qu'il n'y ait pas cette barrière de la langue. Je dois avouer que je suis tombée sur les meilleurs colocs possibles, car dès le début, ils ont fait en sorte que je sois à l'aise et ils ont toujours fait le maximum pour que je comprenne une phrase ou le sens d'un mot. J'espère que ce témoignage va pouvoir donner l'envie à certains de se motiver à apprendre ou améliorer leur niveau dans une nouvelle langue. C'est vraiment un outil magique pour voyager et communiquer avec un plus grand nombre de personnes dans le monde. Alors bon courage à ceux qui se lancent. Merci de m'avoir écouté et je vous laisse découvrir les épisodes de mes 4 autres copains qui font également partie du Club des 5. Je vous retrouverai pour ma part dans quelques semaines et je vous parlerai probablement de mes vacances car c'est l'été ici et j'ai hâte de visiter ce merveilleux continent. Vous pouvez retrouver des photos et plus d'infos sur nous sur le groupe Instagram d'Antouroom, D-A-N-T-O-U-R-O-O-M. À bientôt!
hole in the fence and she ran. She left a troublesome prison behind. Left to see.